Même si autour de ce micro, il n'y a que des professeurs de français, il serait stupide, voire dangereux, de nous limiter à l'espace culturel franco-français. Encore une fois, Adeline, dans son édito, nous a ouvert le chemin en associant notre réflexion sur l'écriture à l'actualité américaine. Celle-ci nous interroge, nous préoccupe également. Nous avons donc pensé que la rubrique des notes de lecture devait vous proposer, chers auditeurs, une synthèse des informations à notre disposition dans la presse d'outre-Atlantique. C'est Angélique qui s'est attelée aujourd'hui à ce travail.
Oui, travail qui reprend un débat vraiment très, très, très houleux dans la presse depuis qu'au printemps dernier, 45 États américains ont annoncé l'abandon de l'écriture cursive. Alors cela a fait couler beaucoup d'encre depuis la rentrée, ce qui a pu sembler une plaisanterie, un poisson d'avril, selon Bernard Pivot, interviewé dans la Dépêche de mars 2013, semble en fait être la reconnaissance officielle d'un état de fait. Au pays de Steve Jobs, Bill Gates et Mark Zuckerberg, les cahiers jaunis où les courbes déliées semblent danser deviennent aussi étrangers que les anciens hiéroglyphes égyptiens, constate le Washington Post. Première précision toutefois, afin d'éviter tout amalgame, hein, ce n'est pas l'écriture manuelle qui est abandonnée, mais cursive. Celle-ci est considérée comme une pratique difficile et superflue. Elle devient donc optionnelle. L'écriture manuelle est conservée, mais en script ou caractère d'imprimerie. Or, c'est cette écriture que les petits Américains apprennent en premier à l'école et avec laquelle ils s'expriment habituellement à l'écrit, c'est-à-dire quand ils n'ont pas recours au numérique. Il y a en fait un peu comme deux langues différentes pour la main, et la cursive apparaît pour eux comme une langue seconde. Beaucoup de pays d'Europe semblent marquer une évolution dans les codes de la cursive aussi. Je vous conseillerais à ce sujet le blog Charivari, très riche, très bien documenté, dont vous trouverez toutes les références dans le document d'accompagnement de l'émission. Je reviens à mon propos sur les États-Unis. Donc, la publication des nouveaux standards américains de l'enseignement à la rentrée par le ministère fédéral de l'Éducation montre même en fait qu'il existe trois langues de l'écrit, en ordre d'importance le numérique, puis le script et enfin la cursive. Alors, je me suis intéressée à ces standards, ils fixent le niveau de maths et d'anglais. Mais dans la pratique de la langue, donc l'anglais, rien n'est précisé quant à la maîtrise de l'écriture. Alors que la maîtrise d'un clavier doit être acquise à la fin de ce qui correspondrait à peu près à notre CM1. Selon Steve Graham, professeur de pédagogie à l'Université d'Arizona, la compétence la plus importante aujourd'hui, c'est de taper sur un ordinateur. Volonté nette affichée, la compétitivité des élèves. Ce n'est pas tant la forme d'écriture qui compte, mais le contenu du texte écrit. Et quand les tests annuels administrés aux élèves sont en passe d'être tous informatisés, on ne peut que constater que la cursive n'appartient déjà plus à ce système scolaire. Ce que confirme aussi la réaction de la majorité des jeunes Américains interrogés par le magazine Junior Scholastic, 3000 sur 3900 répondent « Oh my God, forget cursive, it's dead », écrit en SMS, OMG pour « Oh my God », c'est-à-dire « Oh mon Dieu ». Oublier la cursive, c'est mort. Mais les États-Unis cultivent le paradoxe. Si l'intérêt de l'écriture cursive n'est reconnu dans le pays que pour signer des documents, un sondage Harris effectué en juillet dernier montre que 89% des adultes estiment pourtant nécessaire d'apprendre à lire et à écrire en cursive, cette forme d'écriture qu'ils maîtrisent mal pour la plupart. Alors, j'évoquerai simplement, sans rentrer dans le détail, le débat politique qui oppose notamment la Caroline du Nord, soutenue par l'Alabama, la Géorgie, le Massachusetts et la Californie, aux autres États. L'élu local de Caroline du Nord, élue républicaine, Patricia Hurley, a en effet adopté une loi dite « back to basics », c'est-à-dire « retour aux fondamentaux ». De ce fait, le New York Magazine évoque une croisade en faveur de l'écriture cursive qui ne serait qu'une prise de position politique conservatrice. Pro ou anti-cursif, en tout cas, dans toute la presse, les réactions abondent. Au milieu de ce déferlement de réactions, j'ai essayé de rester la plus objective possible, faisant taire ma première réaction d'incrédulité pour pouvoir concevoir les arguments des deux camps. Pourquoi, finalement, l'abandon de cette écriture aux courbes souples est-il si douloureux ?
les pleins et les déliés, appris à l'école, et c'était une norme à l'époque, ont été abandonnés lors du passage du stylo à billes. L'histoire de l'apprentissage de l'écriture évolue nécessairement en fonction des innovations technologiques. Preuve en est, BIC, la célèbre marque, a proposé depuis 2012 son ardoise numérique à destination des élèves. En fait, renoncer à cet apprentissage, c'est un peu oublier qui nous sommes pour deux raisons différentes. L'écriture, la vraie, a un ancrage culturel que nous avons peur de perdre en la perdant. Ce, surtout sur ce vieux continent dans lequel nous sommes. Nous sommes profondément attachés à notre passé et les USA, eux, sont résolument tournés vers l'avenir. Cette écriture nous relie à notre histoire, aux textes célèbres et aussi à une correspondance épistolaire. Elle relève de l'intime. Cette perte culturelle se double en effet d'une perte d'expressivité. Le lecteur peut en effet reconnaître l'auteur d'un message manuscrit. Il reste sensible au contexte émotionnel dans lequel le message a été écrit. Ça, ce n'est pas du tout les graphologues qui nous diront le contraire. L'écriture sur écran renvoie une image plus distante. Elle ne permet pas de retranscrire les émotions, je dirais, de façon aussi sensible. Alors, quelle est l'utilité maintenant de cette écriture dans l'enseignement ? C'est un des apprentissages les plus longs. Pourquoi ne pas le simplifier et fournir à nos élèves, qui sont, eux, des digital natives, contrairement à nous, des outils numériques adaptés ? Si ces outils numériques souffrent d'une stigmatisation négative, c'est parce que, selon certains chercheurs, ils ne permettraient pas aux enfants de construire une réflexion individuelle. Les chercheurs montrent toutefois que les enfants en contact avec les TIS développent une pensée pragmatique. Et notre société fonde de plus en plus ses échanges sur la rapidité de la transmission et l'abolition des frontières. Au centre du système actuel, l'intelligence collective est la première source d'interaction entre les individus. La maîtrise de la technologie paraît absolument nécessaire dans la mesure où elle est le support et le promoteur du savoir collectif. Après tout, si nous reconnaissons l'utilité de certains dispositifs numériques pour aider les 10, par exemple, les élèves souffrant de troubles spécifiques du langage, pourquoi ne pas les généraliser ? Pourquoi les autres élèves n'y trouveraient pas leur compte aussi ? Essentiellement parce que l'acte de lecture et l'acte d'écriture vont de pair. Il est très difficile, par exemple, à apprendre un enfant à compter sans lui faire manipuler des objets. De la même façon, la lecture, qui est très abstraite, a besoin de l'ancrage du corps pour se construire. Selon plusieurs scientifiques, savoir écrire à la main, c'est savoir lire. C'est ainsi que l'expliquent Jean-Luc Velay et Marie Clonchamp, chercheurs au CNRS, interrogés par Le Point. Je les cite. « Quand l'œil lit, le cerveau écrit à la main. Lire, c'est écrire. Quand on lit, plusieurs zones du cerveau simulent l'acte d'écriture manuscrite. Lorsqu'on écrit avec un clavier, c'est différent. Quelle que soit la lettre choisie, le geste est identique, frapper une touche. Ces découvertes scientifiques récentes ne font que confirmer d'autres postulats, notamment l'intuition de Maria Montessori en 1935. Elle racontait comment l'écriture précédait la lecture chez les enfants. En parlant de ses petits élèves, elle dit « Ce fut près de 6 mois plus tard qu'ils commencèrent à comprendre ce qu'était la lecture, et ce fut seulement l'associant à l'écriture. » Alors si je la cite, ce n'est pas au hasard, puisque de très nombreuses écoles privées américaines adoptent ces préceptes et incluent de ce fait l'écriture cursive dans leur programme. Je reviens sur les élèves ayant des troubles du langage et je ferai référence cette fois-ci à une méthode basée sur l'association à chaque son d'un geste. Cette méthode phonético-gestuelle élaborée par Suzanne Borel-Messoni permet à des enfants, même en grande difficulté, d'apprendre à lire. Cette méthode préviendrait ainsi les dyslexies et dysorthographies, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le geste vient aussi au secours de la compréhension. Alors après tout, si la main n'est qu'une étape dans l'histoire de l'écriture vieille pourtant de 5500 ans, le clavier ne peut-il être lui-même conçu que comme un outil passager ? Donc pourquoi finalement penser ces formes d'écriture en termes d'opposition au lieu d'envisager de les combiner et d'accepter qu'il s'agit de deux formes d'expression différentes qui n'ont pas les mêmes enjeux ? Écrire a permis à l'homme d'augmenter ses capacités cognitives en fixant sa pensée et ses symboles. Le numérique permet de les globaliser et de les transformer. En ce sens, elle peut faire émerger une nouvelle forme de pensée. Elle serait alors davantage une forme de communication nécessaire que d'expression sensible. Veillons donc à ce qu'une dialectique habile s'opère entre les deux.
Les souris et les lettres.